Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et à 9h, le journal, c'est avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. À suivre dans ce journal, les vacances au camping en temps de coronavirus. Premier gros week-end de départ. On fera le point dans un instant sur le trafic. Gérald Darmanin attendu à Bayonne après le décès d'un chauffeur de bus violemment agressé. Un gouvernement resserré, c'est ce que promettait Emmanuel Macron en 2017. Rétro-pédalage à venir. Et puis en Turquie, la basilique Sainte-Sophie transformée en mosquée. On vous dira pourquoi c'est une décision plus politique que religieuse.
Le moment tant attendu est arrivé, celui d'entendre les cigales et de se prélasser au soleil.
Avec un premier gros week-end de départ en vacances, on fera le point sur la circulation dans un instant. Mais d'abord, voyons comment concilier repos et gestes barrières. Illustration au camping Le Mas à Martigues où l'on respecte scrupuleusement le protocole sanitaire. Reportage d'Étienne Baudu.
Entrez monsieur, bonjour, bienvenue.
C'est derrière une vitre en plexiglas que les nouveaux arrivants sont accueillis. Les mesures sanitaires sont strictes, mais ces contraintes semblent bien acceptées, observe la responsable Rosalina.
Nous sommes contents de recevoir des clients joués, contents de sortir de leur confinement et surtout contents de pouvoir vivre leurs vacances tranquillement.
Alors la fréquentation est en baisse, moins 20% selon Rosalina, mais les réservations se font aussi au dernier moment. Cette famille allemande arrive de Cologne.
Jusque 3 semaines avant qu'on est parti, c'était clair, on ne part pas en vacances cette année. Et tout d'un coup, il y avait des possibilités qui ont été données. Alors, on a décidé de le faire, d'essayer.
Bon, en tout cas, vous allez profiter de quoi, là?
De la chaleur, du soleil, de la plage, des cigales, de tout ici.
Et de la piscine aussi, hein, le centre névralgique du camping. Avec là encore des mesures de distanciation, 1 mètre entre chaque transat. Et dans l'automa, un des animateurs a lui aussi adapté ses activités, mais toujours dans la bonne humeur.
Allez, tous ceux qui veulent faire l'aquadance, on se met dans la piscine. Allez, on pense s'il vous plaît à bien respecter les distances. Pareil, respectez bien les 1 mètre s'il vous plaît. Julia, reculez un petit peu. Voilà, attention, ça va partir.
Ah oui, là c'est très très bien parti.
L'aquadance, les village people et les cigales. Tout ce qu'il faut prendre.
Reportage d'Étienne Baudu dans un camping de Martigues pour RTL. Du côté de la route, on va moins rigoler. Bison futéis le drapeau rouge dans le sens des départs. Ce sera orange dans le sens des retours. Bonjour Benjamin Boucriche.
Bonjour.
On voit déjà pas mal de ralentissements ce matin.
Oui, et notamment sur l'autoroute A6 au nord de Mâcon, avec un accident à vous signaler dans le sens nord-sud. Un choc entre 3 voitures implique un petit bouchon de 3 km. Il y a aussi beaucoup de monde au sud de Paris sur l'autoroute A10 en allant vers Le Mans, où il y a un ralentissement à prévoir entre les kilomètres 13 et 17. C'est juste avant le péage de Saint-Arnoult. C'est aussi dense sur l'A61 dans le sud, depuis Toulouse jusqu'à Narbonne. Et puis, évidemment, la vallée du Rhône avant le sable et le soleil. 9 km de ralentissement entre Vienne et Valence, puis à nouveau 11 km au niveau de Valence.
Merci à vous, Benjamin Boucriche. Début des vacances et fin de l'état d'urgence sanitaire depuis ce matin, sauf pour Mayotte et la Guyane. Et avec lui, la fin de la trêve hivernale, le retour des jours de carence pour les arrêts maladie et la réouverture des salles de spectacle et stades de 5000 personnes.
Partons maintenant à Bayonne, la ville meurtrie il y a 5 jours par l'agression, violente agression d'un chauffeur de bus.
Philippe Monguillot est décédé hier à l'âge de 59 ans, roué de coups pour avoir simplement voulu contrôler le ticket d'un passager et exiger le port du masque. Le Premier ministre promet de punir les auteurs de ce crime abject et le ministre de l'Intérieur se rendra tout à l'heure sur place. Philippe était en état de mort cérébrale. Hier, son épouse Véronique a choisi de le laisser partir paisiblement.
On gardait un petit espoir quand même, mais je savais très bien qu'il allait partir, quoi. Ils se sont battus pour lui, pour l'aider, mais bon, quand il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de cerveau, hein, c'est pas réparable. Donc on a décidé d'un commun accord d'arrêter le traitement, ça ne servait à rien de s'acharner, on ne peut pas. On est parti avec mes enfants voir Philippe pour l'embrasser, lui parler, bon, faire comme on faisait tous les jours, on va dire. Hein. Je préfère garder un souvenir de lui où j'ai ma main sur un cœur qui bat que sur un cœur qui éteint, quoi, vous voyez. Donc je l'ai embrassé, j'ai fait pareil, comme j'ai fait tous les jours. On est parti et puis ensuite voilà ils ont commencé leur protocole et le neurologue m'a appelé vers 17h34 à peu près pour me dire voilà qu'il venait de partir, de s'éteindre doucement, paisiblement, son cœur s'est ralenti petit à petit jusqu'à s'éteindre, quoi. C'est mon oxygène qui est parti.
Véronique, l'épouse de Philippe Monguillot, jointe pour RTL par Vincent Serrano.
Le gouvernement réuni en séminaire ce matin à Matignon. Une trentaine de ministres. On nous promettait un gouvernement resserré. On en est assez loin. On en parle dans un instant.
RTL Matin.
RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et la suite du journal d'Aude Vernuccio. Un nouveau gouvernement est comme l'impression, Aude, d'un petit retour en arrière.
16 ministres et 14 ministres délégués sont réunis en séminaire à Matignon autour de Jean Castex. Il s'agit bien sûr de fixer le cap pour l'exécutif, mais aussi de réorganiser leur mode de travail. Emmanuel Macron avait imposé une réduction des effectifs dans les ministères en 2017. Eh bien, il devrait revenir sur cette décision, Vincent Derosier.
Oui, et décidément, c'est une promesse bien difficile à tenir après 3 ans à l'Élysée. Le gouvernement resserré et de combat du candidat Macron s'est transformé en véritable armée mexicaine. Déjà 30 ministres, auxquels il va falloir ajouter une dizaine de secrétaires d'État la semaine prochaine. Un élargissement qui concerne aussi les cabinets ministériels. En arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron avait souhaité réduire le nombre de conseillers. 10 pour un ministre, 8 pour un ministre délégué, c'était la règle. Résultat, les conseillers sont sur les rotules. On n'en peut plus, on fait 9h, minuit, tous les jours, confie l'un d'eux. Ça ne sera pas du luxe d'avoir du renfort. Et justement, ce renfort arrive, Jean Castex veut étoffer les équipes. Il y aura bientôt 15 conseillers pour un ministre, 12 pour un ministre délégué. On pourra mieux répondre à la crise, mieux se rapprocher des élus et des parlementaires, me confie un proche du Premier ministre. Jean Castex espère aussi que cela permettra d'accélérer l'exécution des réformes, alors qu'Emmanuel Macron a déjà lancé le compte à rebours avant 2022.
Vincent Derosier du service politique d'RTL. L'actualité à l'étranger. La France regrette la décision turque de transformer Sainte-Sophie en mosquée. L'ancienne basilique devenue musée verra sa première prière musulmane prononcée officiellement le 24 juillet prochain. Mais les fidèles n'ont pas attendu pour se rassembler autour du muezzin hier soir. Écoutez l'appel à la prière. L'UNESCO regrette aussi cette décision. C'est une provocation pour le gouvernement grec. Mais le président turc assume sa décision d'ordre très politique finalement, selon Jean Marcoux, professeur à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la Turquie.
Au cours des toutes dernières années, notamment depuis 2015, il y avait effectivement des recours d'associations, des groupes islamistes, des groupes islamo-nationalistes. Et le gouvernement, progressivement, a soutenu finalement ces recours. Et ces dernières semaines, il a été très virulent, donnant également à cette problématique, en fait, une dimension assez nationaliste. C'est une opération qui peut se révéler payante pour Recep Tayyip Erdogan dans un contexte où, il ne faut pas l'oublier, depuis l'an dernier, spécialement à Istanbul, il est contesté. Et puis sur le plan international, je crois que cette reprise symbolique en quelque sorte de Sainte-Sophie, c'est un peu, je dirais, un événement qui vient parachever une série de succès diplomatiques et militaires de la Turquie en Méditerranée orientale et au Proche-Orient.
Propos recueillis par Pierre Julien pour RTL. En football, le Real Madrid se rapproche du titre de champion d'Espagne en s'offrant la victoire contre Alavés. 2-0, dont un marqué par Karim Benzema. Match de 35e journée de la Liga, les Madrilènes ont désormais 4 points d'avance sur Barcelone. Peut-on espérer un quart de finale justement de Ligue des Champions OL Real? C'est une possibilité d'après le tirage au sort du tournoi de la Ligue des Champions. Les Lyonnais pourraient aussi affronter Manchester City, mais uniquement s'ils remportent le 8e de finale retour face à la Juventus. Rendez-vous le 7 août à Turin. Le PSG, quant à lui, est déjà qualifié pour l'écart et devra affronter l'Atalanta Bergame.
Et puis Teddy Riner prend la parole pour dénoncer des tags racistes.
Des injures qui recouvraient le portrait du double champion olympique de judo sur les murs de l'INSEP à Vincennes. C'est un peu l'école des sportifs de haut niveau. Son nom était barré, remplacé par le mot singe. Des faits inacceptables pour Teddy Riner, interrogé par Jean-Michel Rascol.
C'est triste qu'on en soit encore là au 21e siècle. Dans le monde du sport, on est encore à l'abri de certaines choses, mais il y a des gens qui le vivent au quotidien. Donc il faut qu'on continue à combattre ces choses-là pour que demain, on soit dans un monde sain où ces choses-là ne doivent plus exister. Ça y est, pour moi, c'est un acte qui ne doit jamais plus arriver, surtout à l'INSEP et dans le monde du sport et dans le monde en général.
Vos parents, vos grands-parents surtout, se sont battus pour que des choses comme ça n'arrivent plus.
Bien sûr, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils se sont battus pour nos droits. et pour qu'on soit libre, qu'on soit tous des hommes libres. Donc oui, quand je dis on ne doit pas laisser passer ça, on ne doit pas laisser passer ça, et ça ne doit plus arriver.
Teddy Riner au micro de Jean-Michel Rascol pour RTL.
Merci Aude Vernuccio, les courses.